vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un album festif et généreux qui fait du bien dans l'amorosité ambiante, celui d'un sextet jazzy qui fait swinger avec sa chanteuse pétillante et ses instruments acoustiques qui nous font chalouper vers l'âge d'or du jazz du sud des États-Unis et singulièrement de la Nouvelle-Orléans. Une musique populaire, biberonnée par Bessie Smith ou Louis Armstrong. Bienvenue dans l'univers enjoué et coloré des Sassy Swingers. Leur chanteuse Sandrine Arnaud est avec nous. Elle vient nous présenter So Sassy, leur nouvel album, et vous m'en direz des nouvelles.
Cheeks and blue all around. Ah, take a look at the doctor. He's got the wonder smile. And when I ask what's the matter, he laughs and shouts,
"You're so in love."
Bonjour Sandrine Arnaud.
Bonjour.
C'est donc chez le docteur que vous nous incitez à aller dans le morceau qui ouvre l'album. Et on comprend tout de suite qu'il va nous prescrire une bonne dose de peps, de bonne humeur. L'atmosphère qui se dégage de cet album, c'est ça l'ADN du jazz Dixieland?
Oui, tout à fait. En tout cas, le nôtre chez les Sassy Swingers, c'est ça, c'est la joie, c'est le don, c'est la danse, le chant, la musique, la générosité, oui.
Donc l'énergie positive. Alors, le Dixieland, c'est en fait les 11 États du sud des États-Unis qui ont fait sécession en 1861. Ce sont donc les États esclavagistes, en fait.
Oui, tout à fait, oui.
Donc le Tennessee, la Virginie, les deux Carolines, la Géorgie, la Floride, l'Alabama, le Mississippi, l'Arkansas, le Texas et la Louisiane. Et c'est en Louisiane,
oui,
que vous avez découvert vous-même cette musique, Sandrine Arnaud. C'était lors d'un voyage en 2014.
Exactement,
c'est bien ça.
Oui.
Ça s'est passé donc à la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qui vous a attiré déjà là-bas?
Alors déjà, c'était tous les musiciens français qui en venaient avec un sourire incroyable et qui me disaient, Sandrine, il faut que tu y ailles parce que ça va te transcender. Et effectivement, en 2014, j'ai pris mon bagage toute seule et j'y suis allée. Et je suis tombée dans le quartier français. Et sur Frenchman Street, pour être vraiment plus clair. Et donc là, j'ai vu tous les bars avec tous les styles musicaux qu'on retrouve à la Nouvelle-Orléans, passant du blues, funk, Dixieland, swing, enfin voilà, créole, tout ça, quoi.
Et ça a été une révélation.
Tout à fait, parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de femmes qui interprétaient le répertoire que nous, les Sassy Swingers, on interprète maintenant. Et c'est elles, en fait, qui m'ont complètement touchée, et de par leur interprétation, qui était un petit peu gouailleuse.
Donc c'est la voix d'abord qui vous a frappé avant la musique en elle-même.
Et la musique aussi, parce qu'elles étaient tout le temps accompagnées par des instruments assez atypiques et anciens. Du coup, c'était vraiment du Louis Armstrong, mais dans les voix des femmes. Donc ça m'a vraiment, vraiment touchée.
Alors, comment est-ce que vous pourriez nous décrire justement le son et l'esprit de ce jazz Dixieland?
Eh bien, disons que l'esprit, ça parle du quotidien, en fait. Et en général, ça tourne autour de l'amour, de l'alcool, de la fête. C'est énormément ça dans ce style de musique. Et donc, c'est ce que nous, on a voulu aussi reprendre et puis partager aux Français. Parce que, en tout cas, moi, je ne connaissais pas de groupe qui portait ce style-là aussi actuellement. On va dire que c'était un style ancien, mais actuellement, il y a peu de groupes qui le portent.
Donc après ce séjour en Louisiane, vous rentrez à Nantes, donc dans l'ouest de la France, et quelques mois plus tard, vous lancez les Sassy Swingers.
Ouais, exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques mois? Quel a été le déclic et le processus de création du groupe?
Eh bien, disons que je me disais, est-ce que, alors, j'étais en train de, moi, j'avais déjà fait, je faisais du jazz, mais je voulais vraiment toucher ce jazz que j'avais entendu à la Nouvelle-Orléans. Donc, il a fallu que je m'entoure de musiciens qui avaient ce style d'instrument. Entre autres, j'ai commencé avec un banjo, un washboard et un sous-bassophone, sous-aphone en anglais. Donc, fallait que je trouve ces trois compères qui m'ont accompagné à la fin de 2014 pour commencer l'histoire des Sassy Swingers.
Alors ça, justement, c'est pas des instruments traditionnels, classiques. Le sous-aphone, déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi il ressemble et quels sons est-ce qu'il donne?
Eh bien, en fait, c'est la basse qu'on a dans le groupe, c'est le sous-aphone. Et c'est un tuba, c'est le plus gros tuba de la famille de tuba que vous pouvez trouver. Donc c'est celui qui passe au-dessus de la tête du musicien.
D'accord.
En fait. Donc lui, il est fait pour faire la basse, c'est-à-dire les sons les plus graves.
Voilà, donc une sorte de tuba contrebasse en quelque sorte.
Alors, exactement.
Alors le washboard, alors ça, faut aller voir la photo quand même, parce que c'est quand même pas, là aussi on se demande si c'est vraiment un instrument de musique.
Ben, en fait, en tout cas pour lui, c'est un instrument de musique détourné. Normalement, c'est fait pour laver linge.
Voilà, c'est donc, une planche à laver, le washboard, donc c'est rigide, et on l'enfile un peu par l'encolure, quoi.
Exactement.
Un peu comme un débardeur, et on s'en sert comment?
Eh ben, normalement, enfin, en tout cas chez nous, il utilise des dés pour gratter dessus. Donc c'est une percussion, pure et simplement une percussion en fait.
Donc oui. Bon, le banjo c'est quand même beaucoup plus connu.
Exact.
Donc et il y a aussi, parce qu'au départ c'était un quartet, hein, les Sassy Swingers, mm-hmm. maintenant un sextet, il y a aussi la batterie, le trombone, la clarinette et la trompette. Je vous en ai oublié un,
oui.
Des instruments?
Non, vous n'avez pas oublié, vous avez tout.
Je croyais que vous jouez aussi du kazoo vous-même.
Oui, c'est vrai, j'en joue, oui.
Alors c'est quoi le kazoo?
Alors le kazoo, en fait, c'est juste une sorte de sifflet, si on peut dire ça comme ça. Il y a une membrane à l'intérieur et en fait, tous les sons de la voix qu'on émet sont éraillés, en fait. Enfin, donnent une couleur un peu canard qui peut remplacer des cuivres, finalement.
Oui. D'accord, c'est tout petit, hein, vous mettez ça donc, dans votre bouche, j'allais dire dans votre bec, mais c'est vrai que parfois on s'en sert pour imiter les oiseaux.
Donc exact,
ça tombe assez bien. Et c'est vrai que nos auditeurs africains peuvent aussi le reconnaître parce qu'on l'utilise aussi dans certains pays d'Afrique. Tous ces membres des Sassy Swingers, Sandrine Arnaud, ils ont de solides formations musicales ou bien ce sont des autodidactes?
Disons qu'ils sont tous issus. Je pense qu'ils ont tous fait une petite. Dans tous les cas, ils sont tous issus du conservatoire. Après. Il y en a certains qui sont restés plus ou moins longtemps au niveau des diplômes.
Mais on apprend le washboard de conservatoire?
Non, il a dû l'apprendre avec un autre musicien qui l'avait appris du fait qu'il avait été à la Nouvelle-Orléans. Enfin voilà, ça c'est plus ou moins, ça s'est passé en fait. Ça a été un apprentissage d'un autre musicien.
D'accord, mais donc vous-même, vous avez une formation musicale jazz?
Oui, j'ai été à Jazz à Tours exactement, qui est une école de jazz. J'ai pas fait le conservatoire, j'ai fait une école de jazz assez tardivement, parce que je voulais comprendre ce style de musique, et donc j'ai fait une école de jazz pendant 4-5 ans.
Et donc avant la découverte du Dixieland, ou bien vous avez déjà étudié ce genre de musique
non,
à l'école?
Non, c'est après que je suis allée à la Nouvelle-Orléans, et donc du coup c'est là où j'ai creusé le Dixieland, oui. You know, she's mine, the little kind. I whispered in a ear, this great and web of theirs. She's me, and I am she. I can see my face, hear her eyes, and feel the same thing at the same time. Day, she will no longer knock on my door, and her tears will be dried for the loves. You know it will be my loss. I don't want anything else. My only love, deep love, the true love. 'Cause she's mine, just all mine. Who can judge me? Who can change me? Nothing can stop me.
Fingers dans BMDN sur RFI, avec la chanteuse Sandrine Arnaud, qui est aussi autrice et compositrice de cette chanson.
Oui.
Ben, racontez-nous justement comment vous avez procédé pour écrire But She's Mine.
Eh bien, disons que ça part déjà d'une émotion que j'ai vécue en fait par rapport à cette chanson-là. C'est sur la possession, But She's Mine. Et donc du coup, voilà, c'est parti de cette émotion. Je sais que je voulais faire quelque chose de blues, de shuffle. Donc ça, c'est voilà le style. C'est un shuffle assez rapide, mais en tout cas, c'était un shuffle que je voulais faire. Donc voilà de quoi est partie cette chanson.
Que de nouvelles compositions sur cet album, des chansons originales des Sassy Swingers.
Oui, oui.
Jamais de reprise pour pouvoir installer votre style.
Ah bah, en tout cas, pas sur cet album. Sur le premier qu'on a fait, qui s'appelle Music from New Orleans, effectivement, il y avait plus de reprises, de standards, de jazz, que sur celui-là, qui s'appelle Sassy.
Mais quels sont les musiciens qui ont participé à la construction de votre propre style? Vous évoquiez Louis Armstrong tout à l'heure.
Oui, également.
Ça reste une figure importante.
Oui, tout à fait. Lui, déjà, par sa gouaille aussi, parce que du coup, j'ai ce petit timbre de temps en temps éraillé qu'on retrouve beaucoup dans le style de la Nouvelle-Orléans. Et puis, il y a également Bessie Smith, qui a été... une énorme influence. Ensuite, toutes les chanteuses contemporaines qui sont à la Nouvelle-Orléans ont exactement le même berceau musical. Donc du coup, je vais citer des Michia Lake, c'est des choses qu'on connaît pas trop en France, mais en tout cas, c'est vraiment aussi une grande inspiration pour moi. Les Tuba Skinny, qui sont un groupe de Dixieland énormément connu à la Nouvelle-Orléans, qui viennent de temps en temps en France quand même pour des tournées. Et donc voilà, tous ces gens-là, mis ensemble, ont créé le projet Sassy Swingers. Donc c'est vraiment les femmes, finalement, de ce style qui ont inspiré totalement les Sassy, oui.
La composition, c'est un travail collectif aussi ?
Pas vraiment, oui et non.
Alors, souvent, il y a un seul nom hein, quand on regarde les crédits pour chacun des 14 titres de cet album.
Oui, disons que ça part d'un musicien qui est généralement auteur-compositeur de sa chanson et après, on arrange ensemble. Mais la musique arrive quand même relativement au terme quand elle est présentée au groupe, en fait. Donc, du coup, c'est nos influences, c'est notre façon de jouer à chacun qui apporte sa couleur finale. Mais dans tous les cas, oui, il y a généralement un compositeur, auteur-compositeur.
Oui, et pourtant, vous dites que ce disque, eh bien, il est né aussi, Sandrine Arnaud, de 6 ans de rencontres et de partage à travers l'Europe. Alors, je ne comprends pas très bien, puisque influence américaine, chacun apporte sa pierre et puis on essaie de construire collectif. Mais quelle est la place, justement, des influences et des rencontres européennes dans ce disque?
Parce qu'en fait, on a beaucoup voyagé, enfin, avec les Sassy, on est allé un petit peu partout. On a même été jusqu'à Dubaï. Donc du coup, ça nous a aussi touchés, ça a aussi influencé. C'est le partage avec les gens, le fait d'avoir... On a toujours eu un très bon public, on a toujours eu des gens qui nous écoutaient avec des grands, grands sourires. Et en fait, c'est ça qui nous a nourris sur la route des Sassy Swingers, en fait.
When I was a little girl, mama used to say to me, you know, baby, in this world, life's as hard as it can be. Looked up with my big blue eyes, big old smile, lips around. You know, mama, spare your advice, 'cause I got another song in my head. I'm so sassy, I'm so sassy, I'm so sassy, I do what I want. I'm so sassy, I'm so sassy, I'm so sassy, I do what I want. The guy looking down at me, you know, lady, in my club, there's a set of kind of people we don't wanna see. Ice cream, ice shutter, we don't need you to get a party started. Come on, y'all, just walk outside, 'cause I've got another song in my head. I'm so sassy.
Sassy, la voix de notre invitée Sandrine Arnaud avec les musiciens du groupe The Sassy Swingers dans VMDN sur RFI. Alors je suis allé vérifier dans mon dictionnaire préféré. Un sassy, ça se traduirait en français par culotté, effronté, insolent, impertinent. Quelle est la traduction qui vous convient le mieux, Sandrine Arnaud?
C'est plus impertinent. On s'est arrêté sur impertinent. Mais en fait, il y a une histoire de sassy. En fait, sassy, c'est le surnom de Sarah Vaughan. à la base.
Ouais.
Et j'aimais beaucoup, en fait, je trouvais que l'écriture de impertinent en anglais était super, Sassy. Et en plus, je m'appelle Sandrine Arnaud. Donc, on retrouve les initiales de mon nom et de mon prénom.
Est-ce que le mot correspond aussi au personnage que vous êtes sur scène, Sandrine Arnaud ? Parce qu'il y a votre voix et il y a aussi le jeu. Là, en studio, on sent bien que vous avez du mal à rester assise tranquillement en écoutant votre propre musique. Vous jouez le visuel, le personnage que vous construisez, c'est aussi important que la musique et la voix, ça va ?
Oui, en tout cas, moi j'aime beaucoup l'image. Donc j'ai aussi une formation de comédienne. Du coup, en fait, j'ai beaucoup mis de l'image dans les Sassy Swingers. Et entre autres, je pense que oui, ça colle bien. Parce qu'effectivement, je suis un petit peu, on va pas dire effrontée quand même, mais j'ose faire. Voilà, j'ose faire des choses. Ma vie, elle est que comme ça, en tout cas, même moi personnellement. Je suis une challengeuse, j'adore aller de l'avant, quoi.
Mais alors, à quoi ressemble le personnage de Sandrine Arnaud Sassy sur scène ?
Eh ben, c'est une pin-up. En général, c'est ça. Donc, j'ai toujours des robes de pin-up avec une coiffure de pin-up et des fleurs. Et c'est très coloré, c'est très jovial, c'est généreux, c'est pour les gens, c'est populaire.
Donc, style rétro plutôt oui. Années 30. Hein,
oui.
C'est ça, effectivement.
35 ans. Touche le 50 quand même au niveau de la pin-up, oui.
Voilà, l'identité du groupe Sassy Swingers. Et puis, donc, il y a votre voix. Alors, vous jouez beaucoup avec votre voix, là, pour le coup. On parlait de la dimension acting à l'instant. Elle est tantôt sexy, tantôt gouailleuse, tantôt les deux en même temps. Mm-hmm. Parfois un peu blues, parfois très joyeuse. Mm-hmm. La scène vous manque pas trop ?
Alors, disons que pour s'occuper, on fait plein de projets. Donc, le dernier projet, vous l'avez entre les mains, c'est l'album. Et puis, on a décidé aussi l'été dernier d'aller chez les particuliers, chez les gens, jouer notre musique, parce qu'on ne savait pas si on pouvait faire des concerts. Donc voilà, on a fait également des vidéos. Enfin, on essaye de s'occuper. On a fait un nouveau spectacle qui porte le nom Sassy également. Donc voilà, on travaille entre nous pour essayer de ne pas ressentir trop le manque. En tout cas, jouer de nos instruments. Car c'est ce qui nous manque aussi. Et puis le rapport au public. On a hâte de vous retrouver, les gens.
Alors, le message est passé. On va se quitter avec Fini de nous. Alors, Fini de nous, c'est une chanson assez singulière sur cet album, puisqu'elle est en français. Il fallait une chanson en français, Sandrine Arnaud ?
Alors, je sais pas si on peut dire il fallait, mais moi j'en avais déjà construit, enfin écrite une dans le premier album, et là du coup ce n'est pas moi qui l'a construite dans ce deuxième album, c'est Mathieu, et il est arrivé avec cette chanson qui est vraiment, on va dire, un peu un ovni dans l'album, et on s'était dit est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas, et on a décidé de mettre toutes nos compositions et de porter aussi C'en est fini de nous. Et finalement, elle touche beaucoup parce qu'elle est en français et les gens qui nous écoutent sont essentiellement français.
Et la langue française s'associe facilement à la musique Dixieland ?
Eh bien, disons que, comme je dis, elle est un peu ovni. Donc, on retrouve les instruments qui nous portent dans l'album, mais elle est un petit peu plus boléro. Si on l'écoute, ça allait plus dans le boléro.
Eh bien, on va l'écouter, justement. Merci beaucoup, Sandrine Arnaud. Sassy, le nouvel album des Sassy Swingers. On écoute donc Fini de nous.
C'en est fini. Fini de nous, de nous, n'y a plus rien du tout. C'est vrai, entre nous c'était fou, mais c'en est fini, fini de nous. Avant, tu m'appelais mademoiselle, je me sentais si belle, et tu étais si doux. À présent, il n'y a plus de murmures, et tes mots sont si durs, tout est devenu flou. C'en est fini, fini de nous, il n'y a plus rien du tout. C'est vrai, entre nous c'était fou, mais c'en est fini. Fini de nous. Avant, on réglait nos problèmes avec deux, trois je t'aime, un baiser dans le cou. Au fond, je ne sais plus comment faire pour tenter de défaire ce mur juste là entre nous. Thank you. n'y a plus rien du tout. C'est vrai, entre nous c'était fou, mais c'en est fini, fini de nous.
Fini de nous, de Sassy Swingers dans VMDN.
Fini.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et après le sextet Reno-Nantais, le quartet parisien de la semaine, Fanny Blechner, Amélie Beaucourt, ouais. Alain Pilot et José Marino.
Ouais,
bonjour tout le monde.
C'est nous.
Bonjour.
Le sommaire pour commencer. Avec vous Alain, et on lui tire un coup de chapeau à un artiste à double casquette.
D'un côté Talisco en version symphonique et de l'autre Old Calton en version maléfique et vampirique.
Vampirique, aïe aïe aïe. D'ailleurs Amélie, il y a cette histoire que là il repousserait les vampires, fake news ou pas?
Oula, pour les vampires je sais pas, mais pour les amants ça marche je crois.
Ça marche effectivement, on va tous vérifier un jour. Alors si je vous pose cette question Amélie, c'est parce que vous allez justement nous parler de fake news et de théorie du complot aujourd'hui à travers un album de BD.
Oui, une BD qui tente de nous expliquer pourquoi certains d'entre nous en arrivent à croire que la Terre est plate, que Michael Jackson n'est pas mort ou que le Covid n'existe pas. C'est une enquête de la journaliste Douane Buy et de la dessinatrice Leslie Play.
Et ce n'est pas une fake news, le songwriter Sevenol Pierce Faccini vient de sortir son 9e album, José, un savoureux cocktail qui nous fait pas mal voyager.
Oui, alors je vais vous faire entendre les chants de la terre, la voix des animaux, des voix végétales et minérales. Tout est dans ce disque qui est juste sublime.
Mais on va commencer avec vous, Fanny. Cette semaine, Fanny, vous avez eu, c'est un immense honneur pour nous, vous avez eu envie de nous inviter chez vous.
Oui.
Délicate attention, hein, puisque ça fait du monde quand même avec les auditeurs. En plus, avec le respect de la distanciation physique, ça risque de pas être très facile. Vous avez donc un très grand appartement et donc une sacrée chance. Et en plus, vous avez depuis quelques temps une nouvelle fenêtre.
Ah oui, et tenez-vous bien, Jean-François, cette fenêtre, elle est au-dessus de mon lit, mais surtout, elle donne sur un paysage islandais. Alors en fait, je vous explique, c'est une peinture assez grande, d'1m30 sur 80 cm, que nous décrit l'artiste qui en est à l'origine, Bruno Gaden.
C'est un paysage d'Islande où j'ai voyagé en 2015. Suite à ce voyage, j'ai fait une série d'une une vingtaine de toiles qui ont pu être exposées à Strasbourg notamment. Elle représente un paysage pas désertique, mais avec pas un seul arbre. On est vraiment sur de la roche, des lichens. Et quelques taches de neige, les névés qui donnent leur titre au tableau et qui sont en fait des réserves non peintes sur la toile. Donc en fait, ce qu'on aperçoit de la neige, c'est la préparation, le gesso qui est en dessous, ce qui donne cette lumière un peu particulière à la neige par rapport au reste du tableau.
Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette toile? Vous avez les moyens, visiblement, Fanny.
Oh non, non, détrompez-vous. Elle m'a été prêtée, cette œuvre, grâce à un dispositif au nom explicite, une œuvre à la maison. Sur le compte Instagram du même nom, il y a des peintures, des dessins, des sculptures. Il y en a un peu plus à chaque jour, d'ailleurs, que des artistes proposent à des particuliers pour 2 mois. Seule condition, en raison des restrictions sanitaires, évidemment, habiter dans un rayon de 10 km. Personnellement, j'ai donc eu un coup de cœur pour ce tableau. Bruno Gaden l'a d'ailleurs choisi spécialement pour l'occasion.
Parce que c'est une toile que j'ai rarement eu l'occasion d'exposer. Et pourtant, c'est quand même une toile que j'aime bien. Donc, je trouvais ça dommage qu'elle dorme à l'atelier et que personne ne la voit. Et donc, je voulais un peu partager ce paysage. J'ai fait beaucoup de peintures de forêt, mais de nocturnes, qui ont une ambiance presque angoissante parfois. Et là, je trouvais que pour coller à l'opération, et pendant cette période de confinement, j'aimais bien l'idée de quelque chose qui soit vraiment une ouverture avec un ciel dégagé, qui soit un peu plus une bouffée d'air frais que quelque chose d'oppressant, sachant qu'on est déjà un peu oppressé dans notre quotidien.
Mais l'objectif, Fanny, on l'imagine, c'est pas seulement d'offrir une respiration aux confinés masqués que nous sommes.
Non, effectivement, il s'agit vraiment d'une démarche artistique lancée par Olivier Masmonteil. Des galeries, des centres d'art, des artistes de toute la France ont répondu présents pour faire vivre l'art, qui est un peu inaccessible en ce moment, en raison évidemment aussi des restrictions sanitaires toujours.
En fait, j'aimais beaucoup l'idée de démocratiser cet accès à l'art, qui, même lorsque les galeries sont ouvertes, ce qui n'est pas le cas actuellement, au final, il n'y a pas grand monde qui pousse la porte de ces galeries. Et du coup, c'est aussi une manière de dire au grand public que oui, c'est accessible à tout le monde, même si ce n'est pas forcément pour acheter. Ça peut être prêté, ça peut être loué, notamment via des artothèques. Il y en a de plus en plus en France qui permettent, comme une médiathèque, d'emprunter des œuvres pour quelques semaines, quelques mois. Chaque artothèque a des systèmes un peu différents, je crois. Et ça peut être un bon moyen pour voilà, avoir un premier rapport à l'art sans avoir à ouvrir un PEL à côté. Quoi.
Bon, mais il est quand même rémunéré, j'imagine, l'artiste, pour ce prêt.
Eh bien, non, même pas. Il ne m'a pas demandé la moindre contrepartie, comme une petite photo sur les réseaux sociaux. Je lui ai donc demandé quel était l'intérêt pour lui.
Pour moi, oui, l'idée, c'est d'avoir un peu plus de visibilité, de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi tout simplement de partager. Je crois que l'idée, c'est aussi d'être un peu généreux. En tant qu'artiste, on a la chance de vivre quotidiennement au milieu de notre art. Et si on peut partager ça avec des gens qui n'ont plus accès du tout à l'art, puisque tous les musées sont fermés, bah, autant en faire profiter un peu les autres.
Et pour moi, c'était l'occasion de découvrir le travail de Bruno Gaden. Je suis allée voir, par exemple, sur son site, ses autres œuvres. C'était aussi l'occasion d'échanger, en même temps qu'il plantait des clous sur mon mur. Un artiste assez occupé en ce moment. Les lieux culturels sont fermés, certes, mais il faut tout de même préparer les expositions en amont.
Alors là, j'ai des expositions qui arrivent. J'ai la chance d'avoir quand même une actualité malgré tout ça, et d'avoir une actualité l'année dernière. Après, c'est vrai qu'au final, ce sont surtout les visites d'ateliers en direct, des visites privées qui font que les choses avancent malgré tout, et l'engagement des artistes qui me soutiennent. Donc là, je travaille depuis quelques années avec la Galerie du Jour Agnès B, qui a ouvert un nouveau lieu dans le 13e, la FAB. Je travaille aussi avec la Galerie Provost Acker à Lille, chez qui il y a une exposition collective en ce moment, qui est donc fermé au public, mais une exposition personnelle va suivre en mai, si tout se passe bien, où là, je vais présenter une série de toiles qui sont mon retour de voyage d'Amérique centrale. Et je suis en train de préparer une autre exposition en Chine, à Shanghai.
Il m'a d'ailleurs dit donc que ses œuvres voyageaient plus que lui en ce moment.
Bon, Fanny, on connaît votre méticulosité légendaire. Vous n'avez pas un petit peu peur pour la toile quand même ?
Alors honnêtement, si. Je me suis déjà imaginé trébuchant lourdement avec une tasse à café pleine à ras-bord qui viendrait se répandre sur les murs et sur le blanc immaculé de ces montagnes islandaises. Mais bon, il faut avouer quand même que les risques sont faibles et surtout...
Alors les œuvres, elles sont assurées dans le cadre d'une œuvre à la maison. Tout a été organisé pour justement assurer les œuvres clou à clou, comme on dit, c'est-à-dire de l'atelier à la nouvelle maison. Et après, en fait, la plupart des œuvres ne sont pas si fragiles que ça. Il faut vraiment le vouloir pour abîmer une œuvre d'art qui est accrochée au mur. Après, un accident peut toujours arriver, d'où l'intérêt de l'assurance. Mais je pense qu'il faut un peu aussi faire confiance aux gens et jouer sur cette idée de confiance respective, en fait.
Et tout cela, c'est entièrement gratuit. Je suis donc assurée et rassurée. Je peux profiter sereinement de ce grand tableau apaisant, cela pour 2 mois. Mais à ce moment-là, on espère bien que les lieux culturels pourront rouvrir.
Ben, on espère, effectivement. En attendant, pour profiter, vous aussi, qui nous écoutez, du dispositif, vous pouvez donc vous rendre sur les réseaux sociaux. Le projet s'appelle Une œuvre à la maison. Et puis, vous pouvez aussi découvrir sur les réseaux sociaux et sur la page internet de VMDN une photo de votre chambre, Fanny, pour découvrir le tableau. On croise aussi votre chat. Il s'appelle comment, le petit chat ?
Il s'appelle Shérif et on le salue, évidemment.
Eh bien, on lui fait une grosse caresse. Avec vous, José, et avec Pierce Faccini, chanteur, compositeur anglais d'origine italienne, il distille son 9e album, Shapes of the Fall, un folk ardent en résonance avec notre époque.
Oui, toujours au loin des modes et hors du temps, Pierce Faccini, justement, vit depuis 15 ans dans une vieille ferme au cœur des Cévennes. Le chanteur fermier y cultive un jardin musical singulier où fleurissent hors du temps des sublimes chansons sans âge, mais en résonance profonde avec le monde actuel.
l'ensemble de l'histoire qui est tissée par ces chansons individuelles, j'espère qu'il est bien en phase avec notre époque, parce que c'est comme une sorte de chronique de notre temps, vraiment autour de moi, à la campagne où j'habite, autant dans l'observation du monde par les médias, etc. Après, en ce qui concerne la couleur musicale, je ne sais pas si on pourrait dire que l'arrangement musical est en phase avec notre époque. Je pense que c'est juste un peu ma couleur ou les couleurs que j'aime pour habiller ma musique. C'est drôle parce que j'ai appelé cet album donc Shapes of the Fall et je pensais pas du tout à l'automne dans l'usage américain, parce qu'en anglais il dit pas the fall, il dit autumn. Autumn, l'automne, et the fall, c'est le terme américain pour l'automne. Donc moi, je pensais plutôt Shapes of the Fall comme étant les formes de la chute. Donc je parlais d'une forme d'effondrement dans laquelle la pandémie d'aujourd'hui est une partie, est une forme de cet effondrement.
D'abord, cette chanson est en fait, je faisais une sorte d'appel à l'action collective face à l'effondrement du monde naturel.
Oui, alors quoi de mieux pour faire passer ce message que trois des plus belles voix contemporaines, la vôtre Jean-François, oui, celle de l'américain Ben Harper et de marocain Abdelkebir Merchan, maître de la musique gnawa.
J'ai voulu vraiment raconter une sorte d'histoire qui était faite de tons clair-obscur. Pour tout ce qui était assez sombre, au niveau d'une forme musicale qu'on pourrait appeler la complainte, il y a une couleur presque un peu blues. Et pour aller vers une forme de lumière et vers une forme d'énergie, je me suis inspiré de traditions de trance qu'on trouve traditionnellement autour de la Méditerranée. C'est-à-dire en partant des rythmes de trance qu'on trouve dans l'Italie du Sud, qui s'appelle donc la pizzica, c'est une sorte de branche de la famille des tarentelles. Donc c'était une musique de guérison, en allant jusqu'à l'inspiration des musiques gnawa au Maghreb et puis même de rythmes soufis. Je voulais marier ma première langue, qui est l'anglais, avec les pays et les cultures qui sont plus proches à mes origines, en fait. Dans ce mélange, pour le rendre plus clair, plus lisible, j'avais l'idée de faire ce morceau, donc All Aboard, en invitant Ben pour souligner un peu tout ce qui vient de l'anglais et qui vient de cette influence du country blues et musique anglo-américaine, et le marier avec la voix d'Abdelkebir quand il chante ce louange. Pour moi, c'est comme s'il ramenait une lumière. Et ensemble, on crée ce clair-obscur, ce chiaroscuro, pour effectivement relier un peu la complainte avec la guérison.
Back then before, as brothers we grew as leaves do.
Tradition de trance du bassin méditerranéen, du sud de l'Italie jusqu'au Maghreb, Pierce Fascini fait dialoguer les langues et les cultures pour célébrer la nature, je sais.
Exactement, un album en forme de complainte, donc soyons un peu poètes, on dirait que donc, cette complainte s'élèverait comme autant de chants de la terre, en majuscule, des voix animales, végétales ou minérales, dans une pulsion de vie devenant musique. La musique comme antidote au chaos, par exemple, les cornes de brume qui sont censées alerter les marins du danger. Pierce Fascini utilise ce son comme une métaphore dans l'urgence de la crise climatique.
Tire une sonnette d'alarme, l'arbre se dessèche, il meurt. Ce qu'on fait à notre climat, ce qu'on fait à notre terre, ça voudra rien dire si on s'en occupe pas. Beaucoup de ces choses-là sont liées à la globalisation. Tout le monde se dit « Ah, mais moi je me rappelle qu'on prenait la voiture, le pare-brise était couvert d'insectes et maintenant on peut voyager pendant des heures et il n'y a pas d'insectes. L'humanité sont les insectes, c'est dur à imaginer en fait. » N'importe quelle personne qui adore la nature et qui adore la vie à la campagne va apercevoir et va adorer suivre le rythme des saisons, observer l'immigration des oiseaux, le mouvement des arbres, la sève qui descend, la sève qui monte, les bourgeons qui commencent, les premières feuilles, les floraisons. Donc la sonnette d'alarme qui dit attention, ce paradis quotidien. C'est une sorte d'arche de Noé parce que c'est ça notre monde. Mais il faut arrêter avec des scénarios un peu Frankenstein d'intelligence artificielle pour résoudre nos problèmes quand simplement il faut faire confiance à la nature, confiance à déjà ce qui est en place et simplement revoir un peu comment on consomme et comment on se situe dans le monde. Burden's a beast, without a home too far gone. I've never known paradise fell on the eighth day. We're on the last watch, should I even pray? Shapes of the Fall, 9e album de Pierce Faccini, inspiré donc par le mythe du déluge, l'arche de Noé, dans l'espoir de nous sensibiliser à la sauvegarde de la planète. Merci beaucoup, José.
Je vous en prie, Jean-François.
Bon, alors ça va pas faire plaisir à Pierce Faccini, mais Amélie, vous allez nous parler justement de ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique ou ceux qui pensent que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune. Le premier pas vers la théorie du complot, c'est bien sûr la propagation des fake news et c'est tout l'objet de la nouvelle bande dessinée de la journaliste Doane Bui et de la dessinatrice Leslie Play. Fake News, l'info qui ne tourne pas rond, paru aux éditions Delcourt.
Oui, Doane Bui, qui travaille au magazine L'Obs, s'est allée à la rencontre de ceux qui les propagent, mais aussi de ceux qui les créent. Voilà comment elle a atterri dans le petit village de Vélès, en Macédoine du Nord, comme vous le savez, Jean-François.
Bien sûr.
C'est là qu'ont été fabriqués en masse les faux articles discréditant le Parti démocrate américain pendant la campagne de Donald Trump. On la voit donc discuter avec certaines des plumes qui en sont à l'origine. Et ce qui est frappant, c'est que ce sont de simples villageois, très pauvres pour la plupart, qui n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient.
C'était juste un effet d'aubaine. Ils ont vu qu'écrire des fake news pro-Trump, ça leur permettait de faire beaucoup d'audience. Et donc, qui dit audience, dit monétisation de cette audience. Et donc, gagner 500, 600, 1000 euros, voire plus, alors que le salaire mensuel est de 150, 200 euros. Et ce qu'ils se disaient, ah ben, c'est mal de faire des fake news. Non, pas vraiment, parce que les États-Unis, c'est loin. Puis ils se disaient, si les gens y croient, tant pis pour eux. Et c'est la même mécanique que quand, en fait, on se trompe ou qu'on... justement, on pourrait partager sur Facebook ou retweeter une information fausse. On se dit, c'est juste un partage, c'est pas si grave que ça. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il y a ce partage qu'une fake news est diffusée. Si personne ne partage, la fake news, elle est tuée.
Après la Macédoine, elle part à la rencontre des platistes, ceux qui pensent que la Terre est plate, des Illuminati, du mouvement QAnon, dont l'assaut au Capitole en janvier dernier a tout de même fait 5 morts. Mais la bande dessinée insiste bien sur un point, malgré l'absurdité apparente de certaines théories, les gens qui y adhèrent ne sont pas fous. Et c'est justement ça, cette volonté d'expliquer, de ne jamais se moquer, que la dessinatrice Leslie Play apprécie le plus chez sa scénariste.
Ce que j'aime beaucoup chez Doane, c'est qu'elle ne juge jamais. Peu importe le sujet, même donc les théories du complot les plus farfelues, celles les plus improbables, où clairement on aurait vraiment envie de potentiellement se moquer, elle ne se moque jamais. Et très souvent, dans mes gags, j'avais un peu tendance des fois à me moquer plus franchement. Et Doane me reprenait, me disait, là on est trop dans le jugement, donc peut-être trouver un autre gag qui soit moins dans le jugement. Ça influence vraiment tout son discours et sa façon de voir le monde, et c'est ça que j'aime beaucoup.
Et Amélie, c'est pas la première fois que les deux autrices travaillent ensemble, elles ont déjà fait une BD du même genre sur le terrorisme.
Oui, c'était un sujet un petit peu plus lourd, mais du coup elles se connaissent un petit peu, alors j'ai demandé à Doane Bui ce qu'elle aimait, elle, chez sa dessinatrice.
Le trait de Leslie, il manie la légèreté et la grâce, et ça me semblait indispensable, parce que je savais que j'allais traiter d'un sujet un peu lourd, voire tragique. Je voulais qu'on puisse aussi, de temps en temps, mettre un petit peu à distance, et parfois même qu'on puisse rire, puisque je pense que l'humour peut être parfois la politesse du désespoir. Sur le sujet des fake news, donc il y a un côté cocasse, mais il y a aussi des événements dramatiques, notamment cet attentat de Sandy Hook, de ses parents qui ont perdu leurs enfants suite à une fusillade et qui se sont retrouvés harcelés par des complotistes qui disent qu'ils sont des acteurs et que la tuerie n'a jamais eu lieu. Et là encore, le dessin de Leslie, il fait merveille, parce qu'en fait, elle en fait quelque chose de poétique, de poignant, et à la fois de très pudique.
Alors ce drame de Sandy Hook, Amélie, justement, on en parle dans l'album. De quoi s'agit-il exactement ?
C'était le 14 décembre 2012 aux États-Unis, souvenez-vous.
Le tueur a abattu 27 personnes au total avant de se donner la mort. Cela s'est passé dans l'école Sandy Hook à Newtown, dans l'état du Connecticut. 20 enfants et 6 adultes ont été abattus. Le tireur a également tué sa mère. Jean-Louis Pourté, vous êtes à Washington. Est-ce que l'on a maintenant une idée un peu plus précise de ce qu'il s'est passé? A-t-on des précisions sur ce massacre?
Oui, son auteur s'appelle Adam Lanza. Il a 20 ans. Il a commencé sa journée meurtrière hier en la tuant chez elle, puis en pointant sa voiture, il s'est rendu à l'école où elle enseignait au jardin d'enfants.
Alors juste une parenthèse, hein, Jean-Louis Pourté, notre ancien correspondant à Washington que l'on vient d'entendre, est également celui qui a couvert le premier pas de l'homme sur la Lune pour RFI, ce qui n'est peut-être une coïncidence. Mais trêve de plaisanterie, c'est un des instants les plus poignants de la bande dessinée parce qu'on réalise surtout que la prolifération des fake news peut aussi être dévastatrice pour les victimes d'événements de ce genre.
Mais alors pourquoi, Amélie, est-ce que l'être humain est aussi perméable à ces fake news?
Pour tout un tas de raisons, Jean-François, que Doane et Leslie expliquent très bien dans la bande dessinée. L'impression constante que les gouvernements nous mentent, que les médias cachent des choses, et puis tout simplement car nos cerveaux n'aiment pas les coïncidences et cherchent des liens secrets entre les événements. Plus la vérité est complexe et irrationnelle, plus elle nous déplaît.
D'accord. Alors justement, Amélie, pour finir sur un sujet peut-être un petit peu plus léger, il est un événement tellement improbable et récurrent qu'on a du mal à croire que la CIA n'est pas derrière tout ça.
Oui, c'est l'affaire des chaussettes avalées par la machine à laver que je pense on connaît tous.
Absolument.
Ici, et c'est le seul cas précis pour lequel la scénariste et la dessinatrice crient elles aussi à la conspiration.
Les fabricants de machines, en fait, récupèrent toutes ces chaussettes et ensuite les recyclent et les revendent pour en faire autre chose.
Moi, je pense qu'il doit y avoir un troll qui, jadis, a travaillé avec le Père Noël et qui subtilise un petit peu toutes les chaussettes dans toutes les machines à laver du monde. Et il s'est fait des châteaux de chaussettes solitaires et dans son château de chaussettes solitaires, on m'a dit qu'il vivait avec Elvis Presley qui, comme vous le savez, n'est pas mort.
Ou alors, autre possibilité, peut-être qu'elles sont tout simplement en boule dans une tête d'oreiller.
Voilà, alors avant d'accuser les services secrets, on pense à bien vérifier la source de l'information avant de la partager et à bien inspecter son panier de linge sale.
Eh bien, je vais y replonger. Merci beaucoup Amélie, Amélie Beaucourt qui s'y connaît en machine à laver, fake news, l'info qui ne tourne pas rond de Doane Buis et Leslie Play, paru aux éditions Delcourt. Closer et Talisco, Alain, l'un des deux projets de Jérôme Amandi.
Oui, Jean-François, alias donc Old Calton pour un second album Massacre et Aka Talisco pour cette fois un disque symphonique dont nous venons d'écouter un passage accompagné de l'Orchestre National Montpellier-Occitanie dirigé par Gwenolé Ruffet, enregistré le 7 septembre 2019.
Racontez-nous, depuis quand ce musicien prolifique sévit-il?
Jérôme Amandi a commencé très sérieusement la musique à l'âge de 11 ans. Il a notamment pris des cours de guitare. Il monte son groupe à 13 ans alors qu'il était encore au collège. C'était un groupe de rock et Jérôme était déjà très à fond. Il arrête l'aventure à 19 ans. Très honnêtement, il remarque à l'époque que ce qu'il faisait n'était pas génialissime. Il continue en dilettante et fait beaucoup d'électro. Dans la musique qu'il produit aujourd'hui, il y a un lien à chaque fois avec son état d'esprit du moment. Bref, un bidouilleur, ainsi se définit-il.
Ouais, je me définis comme ça parce que j'ai pas eu le choix que d'expérimenter quand j'ai commencé à enregistrer par mes propres moyens. Finalement, je suis autodidacte, mis à part le fait que j'ai pris quelques années de cours de guitare, mais en dehors de ça, pas suffisamment pour que la musique soit mathématique, pensée et réfléchie. J'ai toujours été obligé d'aller plus loin pour expérimenter, que ce soit à travers les logiciels, que ce soit à travers les machines. Donc d'une certaine manière, oui, je tente des choses, je bidouille parce que je ne connais pas les machines, parce que je ne connais pas l'environnement matériel et que je suis un curieux, donc du coup, ouais, j'ai l'impression de faire de l'artisanat, simplement.
Alors là, c'est Old Calton avec The Dress, extrait d'un album qui comporte pas moins de 15 compositions quand même.
Ah oui, c'est un bosseur, hein, quelqu'un de perfectionniste qui a besoin d'aller au bout des choses, qui écoute du rock très indé, de l'électro un peu pointu, en passant par de la pop très commerciale. À partir du moment où c'est bon et que cela lui parle, il prend. Jérôme Amandi n'a pas envie de faire de la pop caricaturale où le personnage est mis en avant. Il existe, certes, mais il veut que ce soit la musique et l'univers musical qui prime, à l'instar du projet Old Calton.
C'est comme un exutoire. Je travaille sur Talisco déjà depuis plusieurs années maintenant. C'est un projet dans lequel je me suis beaucoup investi et c'est très agréable de pouvoir porter entre guillemets, hein, un autre chapeau. Et je trouve que Old Calton, c'est comme un projet laboratoire où j'ai tenté des nouvelles choses, un projet qui me permet de respirer, en fait, tout simplement.
Et dans ce disque d'Old Calton, quelques références musicales.
Oui, apparemment à David Bowie et son Space Oddity, où il est question d'une conversation entre la base et le Major Tom. C'est bien de ce Major Tom là dont il s'agit, Jérôme ?
Complètement, parce qu'en fait, derrière cet album qui s'appelle Massacre, c'est ironique. Hein. J'aime beaucoup ce thème parce qu'on est parti sur... On est en train de travailler dessus. On travaille sur un roman. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais me faire taper par les doigts par Sébastien Thévault. En fait, on écrit un roman qui parle d'un serial killer. En fait, cet album traite de ça. Et en fait, c'est un serial killer qui a vécu pendant ces années 70, qui ont été des années complètement folles en termes de... que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique, dans l'art, de manière générale. Il y a eu une explosion, une sorte de serial killer complètement barré qui gravite dans ce milieu artistique. Et du coup, Sébastien qui est en train d'écrire ce roman autour de ça, et l'album s'en est clairement inspiré. Ça va loin l'histoire.
Major Tom, Old Calton, retour à présent à Talisco et ce concert symphonique.
Un rêve enfin réalisé, qu'en garde-t-il ?
J'en garde un souvenir juste extraordinaire. Ça m'échappe encore aujourd'hui quand je repense. J'ai vraiment la sensation d'avoir vécu un délire de gamin. Ça représente quand même des budgets énormes. Et c'est un caprice de gosse parce que ça me rappelle en fait les musiques de films. Enfin, quand j'y repense, ça reste... incroyable. Ça a été très compliqué de mettre ça en place. Ça m'a demandé beaucoup d'heures. J'étais pas mal entouré, mais c'est un travail qui est assez colossal. Et en fait, j'étais complètement spectateur de ce que je faisais. Quoi.
Alors évidemment, ces compositions prennent une toute autre ampleur.
Une autre dimension, une autre couleur. Comment Talisco a-t-il redécouvert ces morceaux ?
J'ai toujours eu ce fantasme de retravailler ma musique de manière instrumentale, avec des instruments moins électro, moins électriques en fait, plus acoustiques, avec plus de bois, plus de chaleur, plus d'humain. Donc j'ai toujours fantasmé cette idée-là, donc je l'ai toujours eu dans un coin de la tête, donc j'ai toujours pensé ma musique un peu comme ça. Et le jour où il a fallu le faire, c'était presque comme une sorte de, d'exercice de libération. C'était l'occasion ou jamais de pouvoir exécuter ce fantasme-là, donc ça se fait de manière naturelle finalement.
Talisco, un titre qui en version originale est aussi le générique d'un fameux feuilleton à la télévision française, on peut peut-être dire lequel Alain ?
Sous le soleil.
Et ben voilà. Pour rappel, l'album d'Old Calton c'est Massacre et celui de Talisco le concert symphonique. Merci Alain, merci également à Amélie, Fanny et José. Voilà, formidable l'amour d'Alain pour les séries de TF1. Dans un instant, l'info, on se retrouve lundi bien sûr avec l'harmoniciste Jean-Jacques Milteau pour son album Lost Highway et vous m'en direz des nouvelles.
RFI.